Bienvenue au brunch politique, ici Paul Trey au micro, accompagné de Gal Yvon. Comment ça va, mon Gal?
Ça va bien vous-même, Paul?
Ça va très bien. Un gros épisode aujourd'hui.
Toujours un gros épisode dans votre compagnie.
Oui, aujourd'hui on vous parle des élections au Chili parce qu'il y a eu un changement politique important en fait dans ce pays d'Amérique du Sud. Un gouvernement quand même bien à gauche vient de prendre le pouvoir.
Oui, avec Gabriel Boric à sa tête.
Oui, exactement. Un gouvernement qui pourrait amener des changements importants dans ce pays-là. Et pour nous parler de ça, en fait, on a reçu justement un invité qu'on avait déjà reçu en fait sur le podcast, Guérou Schneider, qu'on avait reçu pour nous parler des élections québécoises. Et vraiment, il était très intéressant. Mais comment vous le présenteriez plus précisément?
Je le présenterais comme étant un bon ami à nous pour commencer, mais il a fait son bac à l'UQAM avec nous dans les dernières années. Aussi, il a été impliqué dans plusieurs mouvements, dont la grève étudiante de 2012, puis il est impliqué beaucoup en politique, tant municipale, fédérale que provinciale. Puis, il est très connaissant en ce qui a trait au Chili, parce qu'il vient de là également.
Dans
le fond, il a des origines chiliennes. Donc, c'est comme ça que je le présenterais.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, on a entendu dire qu'il préparait un épisode, en fait, une série podcast, en fait, sur les élections françaises qui vont avoir lieu cette année. Donc,
oui, une genre de mini-série HBO en 6 volumes.
Mais
ça va être excellent.
Ça me semble vraiment intéressant et très passionnant. On va suivre ça, puis on va d'ailleurs le relayer sur nos réseaux quand ça va sortir. Mais on a parlé de quoi précisément sur ce podcast-là?
Ben, on a fait une contextualisation du Chili. Donc, on a parlé de la démographie du Chili, de la géographie et de son économie. Ensuite, on a fait un contexte de ce qui a précédé les élections. Donc, parce que, évidemment, pourquoi est-ce que le transport en commun a joué un rôle dans ce qui a fait la montée de la gauche au Chili. Par la suite, on a parlé des élections à proprement dit, puis on a fait un retour sur l'après-élection.
Oui, et c'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, Guérou, il nous expliquait aussi pourquoi c'était important ces élections-là et pourquoi aussi historiquement ça apportait un gros changement et un peu aussi un regard sur demain. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Sans plus attendre, bonne écoute.
Bonne écoute.
Donc, pour une deuxième fois au brunch politique, bienvenue Guérou Schneider.
Bonjour Paul, bonjour Gaël.
Bonjour.
Et bonjour aussi à Thomas qui
ben
est...
Oui, ben oui, Thomas, effectivement, à l'audio.
Thomas, le sentiment. Mais ça, Guérou, en fait, on est content de te recevoir à nouveau, bien sûr. Puis tu sais, on va pas être dans pas long, on peut être là carrément te donner une carte de membre, parce que là, tu es comme le premier invité qu'on reçoit une deuxième fois. Donc, c'est bien sympathique de t'avoir. Et en fait, là, on fait ça à distance, mais on fait ça à distance, de la vraie distance, parce qu'en ce moment, tu n'es pas du tout au Québec. En fait, tu es au Chili.
Et,
oui.
Oui, je suis au pays même qu'on va parler aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant. Et je voudrais quand même souligner, merci encore de m'inviter une deuxième fois aujourd'hui.
Ah, écoute, ça fait plaisir. Puis c'est ça, là, c'est comme je disais. On va justement parler du Chili aujourd'hui, mais on va parler précisément des dernières élections présidentielles parce que ça représente un changement important, en fait, dans le monde politique, même carrément mondial. Tu sais, ça a quand même une bonne couverture, mais avant de tout de suite se lancer dans le sujet puis d'expliquer pourquoi c'est important, ben, j'avais une petite question déjeuner, là. Notre petite question classique, hein, Gaël?
Ben oui, sinon, c'est pas le brunch politique, là. Il nous faut cette question-là.
Puis là, aujourd'hui, ben, on essaie de plus en plus de travailler ces questions-là, puis d'être plus concept. Puis aujourd'hui, la question déjeuner, Guérou, c'est au Chili, là, est-ce qu'il y a un déjeuner classique que les gens prennent?
Absolument. Ben, déjà, il n'y a pas vraiment la question du brunch n'existe pas trop. C'est relativement récent. Donc, ben, c'est assez nord-américain, on va se le dire, le brunch. Ça ne veut pas dire que ça ne gagne pas en popularité, surtout plus au centre ou dans la métropole de Santiago. Mais le déjeuner classique, c'est assez simple. C'est le pain. Il y a deux sortes de pain qui sont très populaires le matin. La marraqueta et la ayuya. En fait, c'est des petits pains assez simples, mais sont excessivement bons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, mais c'est addictif. Et ça vient surtout avec deux accompagnements, en fait, si on veut, le quesillo et le membrillo. Le quesillo, c'est un fromage frais, en fait. Mais inquiétez-vous pas, comme pour les gens comme moi qui sont intolérants au lactose, il y a une pléthore de produits sans lactose. Donc, moi, je suis bien content. Et le deuxième truc, le membrillo, en fait, c'est une gelée, en fait, du fruit qui s'appelle le quince. Puis qui existe seulement, en fait, en Amérique latine, puis aussi en Asie du Sud-Est.
Mais là, on attend que tu nous en rapportes, Kérou.
Ah, je vais essayer d'en rapporter, effectivement. J'en ai trouvé une fois, en fait, dans un marché plus exotique à Montréal. Mais sinon, ça s'accompagne normalement d'un café ou d'un thé. Et c'est à peu près ça. Mais il y a aussi un élément important qui n'est pas dans le déjeuner, mais qui aussi fait partie, si on veut, de la tradition. C'est l'heure du thé aussi. Okay. Mais ça, c'est qu'on a le temps, bien entendu. Mais l'heure de thé est relativement importante. Là, c'est plus encore des petites collations. Et des fois, ça remplace même le souper. Si c'est un espèce de... comme un 5 à 7 ou un petit heure de thé qui s'allonge. Oui, c'est exactement ça.
Fait que l'heure du thé, c'est pas genre à 3 heures de l'après-midi. Là. C'est plus tard.
Non. Ça peut être 4-5 heures. Ben, déjà, le souper, c'est pas à 6 heures. Ça va être plus vers 8-9, normalement, s'il y en a un. Puis l'heure du thé, ben, ça peut être vers 5-6 heures, puis ça s'allonge. Ça peut s'allonger, donc ça peut remplacer même le souper des fois.
Très intéressant. J'ai une question pour toi, Guérou.
Oui.
T'es dans quelle partie du Chili? T'as dit Santiago tantôt, est-ce que c'est là que t'es actuellement ou c'était juste...
Oui, en ce moment, effectivement, en ce moment, je suis là. Ma famille, grand-mère, grands-parents, les oncles sont principalement autour de Santiago.
OK.
Et puis là, justement, on va tout de suite, avant de se lancer dans le sujet des dernières élections, mais pour que les gens, par exemple, si les gens ne connaissent pas vraiment le Chili, est-ce que tu serais capable d'en donner un peu un portrait global? Tu sais, en même temps, ça ressemble à quoi le Chili en termes de population, de territoire et tout, là? Autre que qu'être en Amérique du Sud, là, ça,
oui. Comment tu pourrais le dire? Ouais, donc géographie et un petit peu d'économie très vite. Donc juste la géographie, ben, c'est environ 4300 km de long, qui est à peu près la distance entre Vancouver et Toronto. De la pointe sud est à peu près pas très loin, à environ 650 km de l'Antarctique. Donc, ça va vous donner une petite idée aussi du style de climat qu'il y a. Sa largeur moyenne est environ 177 km. Donc, à l'ouest, il y a bien entendu l'océan Pacifique, mais il y a aussi l'île de Pâques, qui est aussi dans le giron de la souveraineté territoriale du Chili.
Ça, c'est l'île avec des gros statues. Là.
Oui, ouais. Les Mouaques. Donc, l'île est à peu près à 3700 km des côtes. Donc, c'est vraiment loin, mais ça fait partie du territoire chilien. Au nord, on retrouve le Pérou et au nord-est aussi la Bolivie, mais qui partage en fait une des régions les plus désertiques, les plus sèches au monde. Donc, il y a le désert d'Atacama. À l'est, bien entendu. Oui, c'est au nord. Non. Donc, il y a le désertique, le sec. Je vais en parler un petit peu plus du climat tantôt. À l'est, bien entendu, il y a la cordillère des Andes et qui partage en fait une frontière naturelle avec l'Argentine.
Ça, c'est, donc, c'est une très grosse montagne, une très grosse chaîne.
Oui. C'est, en fait, si vous voyez en fait les fameuses rocheuses canadiennes, on est à peu près ça, mais c'est tout le long de la frontière est du pays. Donc, c'est pas juste un petit bout. Bien entendu, il y a des pistes... Oui, c'est une des plus longues, c'est quand même une des très, très longues frontières, territoriales, mais en même temps naturelles, on va se le dire, qui va créer, entre autres, un microclimat du côté du Chili. Si je parle très vite du climat, parce que ça va donner aussi une idée, en fait, de la diversité culturelle, mais aussi économique du pays, ben en fait, la partie centrale est tempérée, donc c'est un peu plus chaud bien entendu qu'ici, il n'y a pas les mêmes hivers, quoique, bien entendu. Dans le centre-sud du Chili, c'est une région lacustre et forestière, donc elle est tempérée, humide et propice à la culture céréalière.
Okay.
Et le tiers le plus méridional du pays est coupé par des profonds fjords, une région difficile d'accès, froide, humide, venteuse et aux ressources limitées. Donc ça ressemble vraiment en fait un peu comme la partie nord, si on veut, de la Colombie-Britannique, voire même la partie sud de l'Alaska. Ça, c'est le sud. Donc, il faut se rappeler, effectivement, on n'est pas trop loin, en fait, de l'Antarctique. Là, c'est 600 quelques kilomètres. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a aussi des températures qui peuvent baisser à un niveau très bas aussi. Donc, là-bas, il va y avoir, bien entendu, plus de neige.
Mais ça, c'est ce qui est drôle. Puis, je sais que ça peut paraître complètement logique, mais c'est concrètement, c'est ça. C'est que vous êtes très, en fait, vous êtes collé proche du pôle sud, donc c'est comme le contraire de nous. T'sais, vous, plus vous descendez au sud, plus c'est... Ben, il fait vraiment fret au sud, en fait. Là.
Exact. Donc, on ne dit pas on s'en va dans le sud pour avoir des meilleures vacances, en fait. On s'en va plus dans le nord ou à la côte. Comme en ce moment, il faut le dire, ben, en ce moment, c'est l'été là-bas. Ici, au Chili, donc il fait à peu près 28 degrés.
Ah, ben, c'est
à peu près une différence. Oui, à peu près une... Oui, c'est ça, une petite différence entre moins d'une différence de 50 degrés. C'est pas si pire à mon retour. si je parle très vite de la composition démographique, ouais. Très, très vite. Là.
Ouais.
Donc, il y a à peu près, près de 10 nations pré-européennes qui peuvent être considérées comme qui composent environ 5% de la population. Le reste, donc 95%, c'est plus un métissage entre d'ex-européens et métissage justement avec les gens du territoire qui était déjà présent sur le territoire. Très vite sur l'économie, là, c'est de l'agriculture, de l'industrie et le service. Donc, l'agriculture, c'est surtout dans l'exportation. L'industrie, c'est l'industrie minière surtout, donc le cuivre, l'or et certains métaux rares. Et c'est une économie qui est surtout centrée sur le service. Donc, service à la clientèle, mais aussi service de assurance, des services téléphoniques et tout ça.
Ouais, un peu comme très... les pays industrialisés de beaucoup.
Oui, c'est ça.
Très important.
Okay. C'est un pays relativement avec un très haut PIB, mais il faut quand même mettre ça sur un angle un peu différent. Il y a quand même un coefficient de Gini de 44,4. C'est juste pour un ordre d'idée, ça veut dire qu'il y a une grande disparité en fait de richesse dans le pays. Donc, le pays en tant que tel, si on regarde le PIB de l'extérieur, c'est immense, c'est gros. On l'a même appelé souvent l'oasis de l'Amérique latine, le Chili. Mais si on regarde un peu plus de façon microéconomique, la richesse est vraiment concentrée sur un petit pourcentage de la population.
Fait que dans le fond, les riches sont très riches puis les pauvres sont très pauvres.
Exact. Là. On parle pas comme au Québec où on parle plus une disparité économique est encore plus grande que ça aux États-Unis.
OK. Ah.
Mais avec un coût de la vie, par exemple, qui est similaire à celui du Canada, mais avec un salaire moyen qui est à peu près la moitié. Donc, je vous laisse imaginer aussi, quand vous êtes dans la partie la plus basse, c'est difficile. C'est l'endettement aussi des particuliers est assez haut, mais pas celui de l'État. Mais ça, on en reparlera, bien entendu, éventuellement, quand on parlera de la Constitution.
Ben, c'est ça, justement, là, tranquillement, on y va. Moi, je passerai au contexte historique, en fait. Ce serait quoi, selon toi, les moments importants de l'histoire du Chili qui nous permettent de comprendre, en fait, le contexte politique du pays? Là. Ça serait quoi, admettons, s'il y a des dates ou des...
Ouais. Ben, deux choses démographiques, en fait, avant d'arriver sur les périodes historiques. C'est un pays de 19 millions de personnes. Il y en a 5 qui habitent dans la capitale. Puis dans la région administrative de la capitale, donc comme une MRC, si on veut, c'est 8 millions.
OK, donc.
Puis l'âge moyen, l'âge médian, c'est 36 ans. Puis l'âge moyen, c'est 34.
Ouais, effectivement.
Ça vous donne aussi une ordre. Ça vous donne une ordre d'idée, justement, de déjà la population, mais ça va jouer, justement, sur les enjeux sociaux et les mouvements sociaux, éventuellement, qu'on va en parler. Donc, il y a plusieurs événements qui sont relativement importants. Bon, on peut mettre la date de la République du Chili, là. La première junte militaire qui a déclaré l'indépendance en 1810. Mais il a pris 1810. Donc, c'est relativement jeune comme pays, mais c'est à peu près la même époque ou période, en fait, si on parle des autres pays de l'Amérique latine aussi. Donc, ils se sont relativement tous séparés dans la même année de l'Espagne.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Se sont séparés de la. Comme, par exemple, les États-Unis se sont séparés de l'Angleterre. Bon, le Canada s'est jamais réellement séparé de l'Empire britannique, là, mais en soi, la déclaration d'indépendance face à l'Espagne, c'était en 1810.
Exact. Mais, puis là, je vais sauter, là, je suis désolé pour les historiens, les amis historiens qui m'écouteraient, mais je vais sauter à une période plus contemporaine, donc en fait, les années 70, en fait. Donc, il y a l'élection, en fait, à travers l'Unidad Popular, ou l'Union Populaire, qui mène Salvador Allende au pouvoir avec un plan résolument de gauche, réformateur, certes, avec une grande vision transformatrice, mais non révolutionnaire. Ça, c'est assez important, en fait, en mettre en perspective. Donc, c'est une coalition de gauche. Donc, c'est les communistes, les socialistes et 15 autres petits partis, en fait, qui vont s'unir pour avoir un plan commun et essayer de prendre, justement, le pouvoir, qui vont gagner, en fait, justement, l'élection en 70.
Oui, c'est ça. C'est 1970, puis c'est comme tu viens de le dire, c'est une élection qui a été vraiment gagnée démocratiquement, là, comme un processus démocratique, libre et tout.
Oui, c'était un des points qui était justement assez important pour Allende, en tout cas pour son parti, c'était de prendre justement à travers la voie démocratique, la voie, si on veut, qui était considérée légitime, le pouvoir. Donc, mais c'est ça, mais ça fait partie, bien entendu, en fait, d'une coalition. Donc, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de compromis quand même. Mais finalement, en fait, il va y avoir trois candidats qui vont se disputer la élection. Et c'est en fait parce qu'il y aura effectivement un candidat indépendant qui va en fait voler des voix, si on veut, à la droite. Et c'est l'Union populaire qui va l'emporter en 70.
OK.
J'avance de 3 ans. Donc, bien entendu, il y a le coup d'État du 11 septembre 73 qui va mettre effectivement la fin. Le 11 septembre, c'est une date à travers l'histoire qui a beaucoup de poids. Donc, il y a plusieurs éléments, en fait, à travers l'histoire. On pourrait même parler aussi de la Catalogne. Parce que c'est aussi le jour que la Catalogne a tombé.
OK.
Sous les mains des Français. Oui, vas-y.
Oui, donc c'est ça. En 73, il y a eu, après que Allende prenne le pouvoir. Et bon, d'ailleurs, si les gens sont intéressés, Allende, c'est quand même une figure très importante. Ben, je dirais de la gauche en général en Amérique du Sud, mais pour le Chili, j'imagine que c'est une figure très, très importante. Puis ça, on pourrait faire un sujet d'épisode au complet là-dessus. Mais prendre le pouvoir, et 3 ans après, c'est comme tu dis, il y a eu un coup d'État?
C'est un coup d'État. Donc, c'est en fait certains généraux qui vont prendre le pouvoir, vont prendre d'assaut, en fait, le palais présidentiel qui s'appelle La Moneda. Ils vont en fait, l'attaquer. Et dans un des derniers appels, justement, Allende va demander en fait que le peuple se soulève. Ça n'aura pas lieu en fait parce que l'armée a pris relativement contrôle de toutes les infrastructures du pays et ça va être le début en fait d'un régime justement d'extrême droite, là, répressif, violent et de terreur qui s'enclenche. Et c'est non retour en arrière sur le système politique quasi seigneurial d'avant les années 70. Mais c'est bien mise en place en fait d'une expérience néolibérale. Programmé, planifié, exécuté, avec bien entendu l'aide des Chicago Boys, qui sont en fait des descendants, si on veut, de la pensée de Milton Friedman, donc en fait une pensée droite, économique de droite, néolibérale.
Oui, c'est ça, c'est un peu les héros du néolibéralisme, comme on le connaît aujourd'hui, qui voulaient absolument tout libérer. Un capitalisme sauvage comme on connaît un peu plus aujourd'hui, mais c'était comme un peu les débuts théoriques de ça.
Exact. C'est même plus théorique, c'est mis en application. Donc les Chicago Boys y avaient pensé, avaient travaillé bien entendu avec Milton Friedman et tout ça, et là on l'applique de façon relativement vite. C'est pas à travers quelques réformes et tranquillement un peu vite, c'est on refait des choses de fond en comble dans cette perspective néolibérale. Et ça va en fait indirectement lancer aussi la vague néolibérale une dizaine d'années plus tard, ou en fait dans les années suivantes, avec Reagan et aussi avec Thatcher en Europe. Mm-hmm. Mais c'était basé effectivement sur l'expérience chilienne qui dit, vous voyez, ça marche, en fait, seulement si on regarde le produit intérieur brut. Puis, voilà, ça marche en théorie, donc on va le faire aussi un peu partout. Mais c'est pensé, c'est riche. Ouais.
Non, mais c'est ces réformes-là ont profondément transformé le Chili, là, j'imagine.
Ben, c'est sûr.
Oui, très, très fortement. Mais le régime, par exemple, va finir par tomber avec un plébiscite en 89. Donc, suite en fait, aux nombreuses pressions internationales. Ceci dit, justement, je vous recommande le film No, qui est sorti en 2012, par Pablo Larraín, qui met en vedette Gael García Bernal. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Bien entendu, c'est en espagnol, mais c'est sous-titré, donc vous pouvez le retrouver un peu partout sur les plateformes ou de façon illégale. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on est en 90, le régime tombe, et il ne tombe pas nécessairement sous une page blanche. En fait, il y a des fondements qui sont déjà là. Parce qu'en 1980, il y avait une nouvelle constitution qui était écrite par les généraux, bien entendu. Bon, il y a certains éléments qui ont été réformés afin pour laisser la voie, une petite voie démocratique et que de nouveaux partis puissent émerger. Mais cette constitution va en fait enfermé, va mettre des canons sur des possibles grandes réformes, sur la nationalisation, supposons, des ressources. Donc, il a figé certains secteurs et affaibli, en fait, le potentiel vraiment démocratique et libre du pays. Et ça va avoir une conséquence, justement, sur la nouvelle constituante et sur les élections qui ont eu lieu en 2021.
Donc, c'est ça, là, comme tu mets un peu d'expliquer, c'est ce régime-là qui avait remplacé un peu l'ND, bon, transformé, et finalement, c'est un peu effondré avec le temps, mais a laissé sur place un peu, comme tu l'as bien exprimé, un cadenas qui est une forme de constitution qui protégeait un peu l'héritage très néolibéral, capitaliste qui avait été mis en place.
Pas bien résumé. Je vous donne un petit exemple très simple. En fait, il n'y a pas de nationalisation des ressources possible. Donc, l'eau doit passer à travers les mains d'une entreprise privée, qu'elle soit nationale ou de l'étranger. Les sous-sols miniers aussi en tant que tel. Un autre élément, en fait, structurel dans la Constitution qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de grands changements structurels qui peuvent se faire, c'est que un candidat ou une candidate à une élection ne peut pas se présenter 2 années de suite ou en fait 2 mandats de suite. Donc, moi, je me présente, je gagne, supposons, cette année l'élection, je finis mon mandat après 4 ans. L'élection suivante, moi, chef de mon parti, je ne peux pas me représenter. En fait, mon parti peut se présenter et avoir une nouvelle tête, une nouvelle figure, mais moi, comme, supposons, si j'ai bien fait, ben, je ne peux pas me représenter. Donc, ce qui arrive souvent, en fait, c'est que c'est le parti dans l'opposition ou un autre parti qui va gagner, va faire encore un autre mandat. Et moi, l'élection suivante, donc dans 2 élections, je peux me représenter comme chef du parti à nouveau. Donc, c'est toujours une espèce de va-et-vient, en fait, si on veut. En fait, le système est fait, en fait, qu'il y ait un va-et-vient entre 2 parties. Donc, en gros, une élection, il y a 2-3 règles qui sont amenées dans une direction. Ben, le mandat suivant, ben, ça va dans l'autre sens. Donc, en gros, il n'y a pas de changement structurel vraiment profond qui peuvent se faire. Il y a eu quand même des réformes constitutionnelles, mais c'est extrêmement difficile, justement, parce que la Constitution de 1980 a cadenassé, justement, les fondements possibles. Des changements possibles.
OK.
Donc, en fait, on assiste à une constitution bien classique, le néolibéral, pro-marché, avec un petit État, peu de contrôle face aux dérives du système capitaliste. Okay. Donc, il faut oublier la nationalisation. Et là, je vous le dis très sincèrement et très direct, c'est l'idéal, en fait, du Far West néolibéral qui persiste encore ce jour. Et ce sera important pour la suite des choses, donc les mouvements sociaux de 2006, 2011 et 2019. La convention constitutionnelle et finalement l'élection de 2021.
Ben ça, on va tout de suite passer à ça parce que là, comme tu l'expliques un peu, c'est tout un contexte social où le pays est un peu au prix, en fait, donner un peu la liberté à l'entreprise privée pendant que il a limité la possibilité de l'État, en fait, de mieux réguler ça. Mais c'est ça, ça a passablement transformé parce qu'il y a eu un. Là, il y a eu les élections qui ont quand même tout changé, mais il y a eu un contexte avant les élections. Puis justement, on en avait parlé durant la pré-entrevue. Tu me disais un peu que justement, il y a eu quand même une crise sociale qui secoue le Chili depuis un certain moment. Là.
Oui, ça fait plusieurs années, effectivement, que ça bouge, ça bouillonne au Chili. Et moi, j'en ai nommé 3 événements, si on veut, ou 3 dates. Il y a celle de 2006. Donc, je vous rappelle, en fait, il y a la démographie aussi qui rentre en jeu. Donc, c'est un pays qui est très jeune. Donc, ça va aussi, ça vous donne un peu d'idée aussi de d'où vient et d'où part justement les mouvements sociaux. Donc, 2006, il y avait un mouvement qui s'appelle le Movimiento de los Pingüinos, le mouvement des pingouins. Ça fait tout simplement une référence, en fait, à l'uniforme des gens au secondaire, en fait, qui est blanc et noir, en fait, tout simplement. Donc, ils se sont auto-référencés comme étant les pingouins. Pingüinos. Mais en même temps, c'est pour les jeunes. Donc, c'était très, une métaphore très imagée, mais en même temps aussi très infantilisante aussi. Donc, du moment. Et ça, il y avait des grands mouvements sociaux, des grands mouvements étudiants sur les enjeux, en fait, des frais de scolarité, la structure de l'enjeu de scolarité, mais bien entendu, c'est buté à des éléments qui sont forgés dans le conscient et ça va lui donner, en fait, un goût amer au mouvement étudiant. Donc, il n'y a pas eu vraiment de grandes victoires. Ceci dit, en 2011, là, on arrive justement à l'une des plus grandes mobilisations modernes étudiantes qui tourne sur les frais de scolarité, sur la marchandisation de l'éducation, sur le rôle de la société civile et de sa place, la place du privé dans cette sphère, surtout de l'éducation. Et on commence déjà à parler, en fait, de d'autres aspects de la vie, vu que le conflit, en fait, s'éternise. Donc, on commence à parler et à se rendre compte que ça va plus loin que l'éducation.
Attends, avant que tu
sur les aspects de la vie.
Oui, avant que tu continues, Guérou, puis ça, c'est tellement intéressant, parce que là, tu me disais justement ce qui s'est passé en 2011, cette grève-là, puis c'est drôle, mais c'est pour moi, c'est presque difficile de ne pas faire un parallèle avec ce qui s'est un peu passé au Québec, parce que je me rappelle, durant la grève de 2012, qui en réalité avait plus commencé en 2011, la grève étudiante qu'il y avait eu, Je me rappelle, au même moment, on voyait beaucoup des images justement du mouvement étudiant chilien qui était comme très militant. Puis bon, les images étaient, tu sais, au Québec, c'était assez soft si on se comparait à ce qui se passait au Chili. Puis dis-moi si je me trompe, mais justement, tu en as dit un peu là, avec le mouvement des Pingüinos, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, là, mais il y a quand même il semble avoir une importance importante du mouvement étudiant au Chili là, en termes social et tout, en termes de mobilisation.
Absolument, absolument. Ça vient surtout justement des milieux, je veux dire, début intellectuel, je dirais pas non plus, c'est pas universitaire, mais ça vient du secondaire. Donc, un peu comme c'était le fin secondaire, début cégep, si on veut. Mais ça, c'est vraiment des gens qui sont vraiment qui ont accès à l'éducation. Donc, c'est pas non plus tout le monde qui est en fait directement impacté par ça, mais comme ces conflits-là, à chaque fois, s'éternisent, ben, ça tombe sur d'autres sujets. Ça tombe sur, mon panier d'achat, mes frais de comment me déplacer au pays, dans la capitale. C'est un peu justement un excellent parallèle que tu as fait avec le 2012. Ben, au début, c'était les frais de scolarité, puis finalement, ça a parlé aussi de la vague néolibérale, du parti libéral qui était là depuis plus de 10 ans, puis on a parlé d'autres enjeux autour des frais de scolarité. Et c'est là, en fait, je pense, selon moi, là, on pourrait faire un autre épisode spécial sur 2012, mais ça a grandi le mouvement, puis ça a parlé d'autres sujets que juste les frais de scolarité. C'est la même chose au Chili, en 2011. Mm. Okay. Donc, c'est ça. Donc, je dis 2011, parce que c'est un long conflit, un des plus mobilisateurs, mais c'est aussi à travers là que Gabriel Boric, justement, intervient. Lui, il est un des leaders du mouvement étudiant, donc il va en faire partie. Et il va se saisir, en fait, de cette vague-là de popularité. Lui et d'autres porte-parole ou d'autres figures notables, du moins, ils vont se présenter aux législatives suivantes et ils vont être députés, en fait, la plupart, ou certains, en 2013. Et ils vont rester, justement, la plupart, en 2013, les législatives, et ils vont être au Parlement jusqu'aux dernières élections, en fait. Hmm. Petit saut en avant, 2019.
Okay.
Ah, on est avant la pandémie. Ça peut sembler très loin pour certains, mais donc on est en début d'année et le prix du billet de métro augmente de 30 pesos. 30 pesos, c'est environ 5 sous. Hein. C'est pas beaucoup, ça n'a l'air pas beaucoup, mais mis en contexte, c'est pas la première hausse du ticket de transport. Et il faut le dire, le Chili se classe environ au 9e rang comme pays ayant les frais de transport les plus hauts au monde par rapport au revenu moyen. Hein. Par rapport au revenu plus bas, c'est environ entre 13 et 30 % de leur revenu quotidien.
Et hey boy,
mis juste sur le transport.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Donc, ça vous donne un peu... ça commence tranquillement, pas vite, justement, à fâcher les gens, et pour des bonnes raisons. Donc, c'est en fait... cette hausse de 30 pesos, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et devinez quel groupe social se mobilise encore? La jeunesse au secondaire et universitaire. Donc, voilà.
OK.
Donc, le mouvement commence relativement paisible, avec des manifestations et actions de visibilité tous les jours, pour finalement se concentrer dans et autour des stations de métro. Ça, c'est important, que c'est dans les métros. Donc, dans le métro, là, c'est devant le tourniquet et tout ça. Sans réponse formelle du gouvernement, les actions de désobéissance civile se font voir. Donc, par exemple, celui de sauter les tourniquets. Donc, les gens ne payent plus les transports.
OK.
Il faut le dire, là, c'est environ 2,6 millions d'utilisateurs quotidiens. Il y a peut-être environ un bon 20% facile que c'est des étudiants. Puis, faut supposer qu'il y a aussi d'autres gens aussi qui vont en profiter s'il y a d'autres gens qui sautent les tourniquets. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est perdu, mais c'est aussi un élément plus symbolique. Okay. Mais là, par exemple, le gouvernement répond, au lieu de négocier puis de calmer les choses, il va répondre comment? Avec la police. Fait notable, la police...
C'est pression.
Exact. La police n'est pas, comme le SPVM ou le SPVQ, un corps régi par les municipalités. La police, là-bas, en fait, est une branche de l'armée.
OK.
Donc, c'est plus une police semi-paramilitaire. Donc,
elle fait peur. Ils se promènent avec des mitraillettes au lieu des petits 9 mm comme au Québec, donc?
C'est ça. Ils ont relativement tous une arme de pointe. Ils ont tous des bâtons. Ils ont des chars blindés. Ils ont des voitures blindées. Ça niaise pas là. Donc, il y a vraiment une militarisation assez forte, justement, de la police. Et ça aussi, ça donne un impact. Non? Déjà, visuellement, tu arrives dans le métro. Qu'est-ce que tu vois? C'est 30 policiers dans chaque station de métro. C'est une image relativement jamais vue, surtout pour la génération qui n'a pas vécu la dictature.
Avec des
mitraillettes. Donc là, on voit mitraillettes, boucliers, tout l'apparat, justement, paramilitaire, là, donc ça fait peur. Et là, il y a une répression relativement très violente qui va se faire.
Okay.
Et ça, par exemple, ça, les gens ont répondu par, par des gestes assez, nouveaux peut-être pour nous, mais il y a des gens qui ont bloqué des stations de métro, incendié des stations de métro.
Okay.
Ce qui fait en sorte que, en fait, le gouvernement a bloqué, a interdit, en fait, l'accès à certains, plusieurs stations de métro. Donc, c'est environ 0,2 millions de gens là, qui peuvent utiliser le métro. En fait, des millions de personnes qui peuvent utiliser le métro pendant quelques jours. Donc, je vous laisse tout simplement imaginer la congestion ou tout simplement la perturbation dans les transports. Donc, il y a des gens qui ne peuvent même pas aller au travail. Et il y a un couvre-feu, bien entendu, qui va être instauré aussi.
OK, un couvre-feu aussi qui va être instauré.
Ouais. Donc, assez strict, là. C'est pas le couvre-feu de COVID là, de M. Legault, là. On parle bien plus tôt et qui finit plus tard. Là.
Ah, OK.
Ouais.
Donc, c'est ça,
long.
Vas-y.
Ouais. Non, vas-y.
Mais ça, j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est face à un peu une forme de révolte populaire, ben, l'État, le gouvernement central, c'est ce que m'a compris, parce que c'est à lui qui appartient à la police, décide de comme écraser, mais par l'oppression et la violence, et c'est ça, comme des lois assez liberticides dans le sens où couvre-feu, on ferme des stations. On n'est pas dans la négociation du tout. Là.
Non, il n'y a absolument pas d'ouverture à la négociation ou de même de comprendre pourquoi il y a en fait une mobilisation. C'est l'ordre, la matraque qui va faire en sorte que les gens vont rentrer dans le droit chemin, puis tout va être établi. Mais ça marche pas. Je saute au 25 octobre 2019. Donc, il y a là une des plus grandes, sinon la plus grande jusqu'à ce jour, mobilisation. Donc, on estime qu'il y a une mobilisation d'environ 1,2 million de gens à Santiago, wow, autour de la place Bacanada ou Italia, qui a été renommée justement Plaza de la Dignidad, donc Place de la Dignité. Et dans le pays, en fait, il y a environ 3 millions de personnes un peu partout qui vont manifester le même jour. Il y a environ 15% du pays, en fait, qui ne travaille pas, qui se mobilise.
Donc, vraiment, c'est quand même un mouvement social assez large. Là, ça transcende.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, les manifestations ont commencé avec les gens et une hausse des frais de transport, mais c'est tout un modèle social qui sera remis en question. Donc, qui ont des revendications de plus de justice sociale, fiscale et en droit, la nationalisation des ressources essentielles comme l'eau et une réorganisation du système de santé et de l'éducation. Mais nous revoilà sur le même mur auquel on fait face depuis le début de ce podcast. C'est le problème de la Constitution qui ne laisse pas changer les choses.
Fait que dans le fond, le petit terme qu'on parlait tantôt.
Exact. Il commence à peser lourd, sur une génération qui n'a pas vécu la dictature, une génération qui ne se reconnaît pas non plus dans cette constitution-là, et ça aussi dans les partis traditionnels, qui n'arrivent pas nécessairement aussi à s'en saisir de ce mouvement-là. Mais on y reviendra.
OK.
Donc, c'est ça. Les gens veulent un changement là, un peu plus drastique, là, non plus esthétique, profond et qui avec une certaine pérennité.
Mm-hmm.
Il n'y a pas vraiment syndicats ou de partis qui arrivent à récupérer ou s'en saisir politiquement et à surfer sur la vague, si vous me permettez l'expression.
Mm-hmm.
Donc, cette mobilisation de 2019 a fait plier le gouvernement le 12 novembre 2019, excusez-moi.
Ouais.
Et il va finir par accepter en fait un processus de réforme constitutionnelle. C'est assez important, ça.
Ouais.
C'est la première chose qu'on demande pour vrai aux gens en fait de constituer. Donc, c'est vraiment des gens et pas des parlementaires. Et ça va être aussi quelque chose de bien spécial.
Ouais. Puis est-ce que tu pourrais nous expliquer justement cette réforme-là, là, comment ça s'est... Parce que tu l'as bien dit, là, ce mouvement-là qui n'est pas nécessairement récupéré soit par des partis ou pas, qui est quand même très populaire. Et là, le gouvernement, comment cette réforme-là fonctionne de la Constitution? Parce que tu me disais depuis le début, c'était comme le cadenas qui entourait comme un peu le contexte politique chilien.
Oui. Bon, déjà, le gouvernement n'est pas tombé parce qu'il y a eu la pandémie. Ça, donc, ça l'a relativement sauvé.
Ouais.
Parce que ça aurait pu accélérer ce processus-là, mais ça n'a pas été accéléré. Il y a eu la pandémie. Il faut se le rappeler, on est encore là-dedans. On espère tout que ça va finir bientôt. Mais après, il y a eu quand même un référendum, un plébiscite sur est-ce que les gens voulaient ou non ouvrir cette question-là constitutionnelle. À 78%, les gens étaient en faveur pour une réécriture de la Constitution à travers le processus de convention constitutionnelle. Donc, cette convention-là, 78% en faveur.
Ah, c'est très fort, assez, voilà. Victoire
c'est assez... très, très fort.
OK.
Les gens étaient, ont quand même été conséquents. Donc, ceux qui ont manifesté, qui demandaient une nouvelle constitution, ben, ils ont eu le droit de se prononcer sur la question. Et à 78%, je pense que c'est assez majeur comme résultat. Mais on n'est pas encore... Il n'y a rien d'écrit pour l'instant. Donc, ils ont 9 mois environ, plus une prolongation possible de 3 mois pour réécrire. Ce qui est relativement très court pour écrire une nouvelle constitution. Mais bon. Mm-hmm. Ceci dit, la convention constitutionnelle, c'est des gens qui ont été élus à cette convention constitutionnelle. Et ces gens-là, c'est surtout des gens tout simplement qui ne venaient pas de partis politiques. Des gens qui étaient tout simplement soit mobilisés un peu avant ou pendant les mouvements de 2019. Donc, non affiliés à des partis, non affiliés à des organisations.
Ouais. Je crois que dans le fond, c'était des boulangers ou des peu importe, puis on décidait. OK.
Puis, si c'est juste me préciser, là, comment ils étaient élus exactement? C'était selon les quartiers, selon les...
Oui, c'est ça, selon les quartiers des districts. Okay. Et c'est à l'intérieur même, en fait, c'est comme des candidatures un peu normales. Il faut trouver des signataires dans le quartier et puis être capable. Il y a des gens qui se sont réunis sous des listes électorales, mais c'est des listes électorales genre indépendants pour la Constitution, indépendants citoyens, citoyens indépendants, pro-Constitution. Donc, c'est vraiment, ils ont fait des listes électorales, mais c'est qui est venu vraiment de la base.
Okay. Hein,
qui est venu des gens. Hein, que ce soit à travers leur milieu directement plus populaire ou des gens qui avaient des sympathies, si on veut, de vision similaire. Donc, il y a des mouvements un peu plus écoféministes, radicales. Je dis pas radical dans le sens péjoratif là, à la Mathieu Bock côté. Moi, je dis juste. C'est pas juste quelques petites réformes, il y a aussi des communistes, des anciens syndicalistes, des professeurs, des infirmières, des mères au foyer, des boulangers, comme tu l'as dit tantôt, Gaël, qui se sont présentés, qui voulaient vraiment un changement profond. Et c'est ça qui a été relativement spécial, c'est dans cette élection-là, par les gens, ben ce n'est pas les partis qui ont été traditionnels qui ont été représentés dans cette convention constitutionnelle. C'est des gens relativement normaux, certains quand même avec de l'éducation, mais qui n'ont jamais milité nécessairement de façon formelle dans un parti politique ou eu une fonction dans un parti politique.
Mmh. Donc, on n'est vraiment pas dans de la partisanerie ou quoi que ce soit. Là.
Non, non, il n'y a pas de partisanerie, bien entendu. Là, il y a un processus qui vient justement de s'enclencher. Il y a une première présidente. On commence à parler, en fait, de plurinationalité et de interculturalisme aussi, donc c'est une première aussi, donc on commence à reconnaître en fait depuis pas très longtemps l'apport en fait des 10 nations qui étaient là, bien entendu, avant les Européens, donc c'est déjà une première, ce qui n'était pas reconnu, bien entendu, dans l'ancienne constitution, donc déjà ça c'est différent, il y aura probablement en fait une décentralisation, une réouverture, mais en ce moment, on est dans les processus où les gens peuvent voter ou faire des envois en fait de réformes possible vers la constituante. Bon, tout ce qui va être négocié dans la constituante par les 150 élus, si je ne m'abuse, va être adopté aux 2/3 et pour que ce soit dans la résolution finale. Et la résolution finale, en fait, doit être adoptée aussi par plébiscite, donc par référendum, et par les gens. Donc, il y aura un processus d'un an, mais d'ici un an, en fait, ça va être resoumis en fait aux Chiliens et Chiliennes. Et les gens vont dire oui ou non à cette nouvelle constitution-là, et ça devrait être adopté.
OK. Et bien là, c'est comme...
Donc, c'est...
Ouais. Vas-y.
C'est un nouveau processus, c'est assez inédit, en fait, même en Amérique latine ou un peu même à l'international. Là, c'est pas souvent qu'on voit, en fait, une réécriture de constitution qui se fait pas non par des parlementaires ou des juristes, mais bien par des citoyens lambda.
Ouais. Et ça, c'est très passionnant. Puis d'ailleurs, genre, sans vouloir peut-être une déformation un peu... de ma part, mais je veux dire, je trouve ça tellement passionnant comme processus. Je trouve que c'est exceptionnel, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais justement, ce processus-là qui ouvre la porte à comme tu l'as un peu dit, à des transformations quand même majeures dans le visage politique chilien, mais c'est dans ce contexte-là, mais qu'il y a les élections du Chili qui se mettent en branle, les élections présidentielles, c'est bien ça?
Oui, bien entendu. Moi, je rajoutais un autre point sur la convention constitutionnelle. C'est la première convention aussi qui est 100% paritaire. Donc, 78 hommes, 77 femmes. Et la moyenne d'âge est environ de 44 ans. Là, on parle de gens qui sont entre 21 et 80. Et il y a des gens justement issus de plusieurs communautés, bon, communauté autochtone, mais aussi de la communauté LGBTQ+. Donc, c'est assez divers et c'est assez intéressant justement sur si on veut, organisation politique qui vient de la base et qui est bien, bien populaire. En fait. Ça, c'est intéressant.
Ah non, sérieux, je trouve ça... Je trouve ça vraiment passionnant. Mais là, parlons, on va rentrer justement dans les élections qui ont lieu. Puis avant tout ça, de parler justement des élections, peux-tu nous dire rapidement comment fonctionne le système électoral chilien? C'est-tu comme au Québec? C'est-tu plus comme on voit par exemple en France avec deux? Peux-tu rapidement nous expliquer comment ça fonctionne?
Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un système républicain, parlementaire, bicaméral. Donc, il y a deux chambres. Dans un premier temps, il y a 150 députés qui sont élus pour chaque 4 ans. Il y a 50 sénateurs qui sont pour un mandat de 8. Mais la moitié de la Chambre est réélue à chaque 4 ans. Donc, okay. Ça ressemble un peu comme les Américains aussi, qui changent par cycle leur sénateur. Donc, la présidence est élue par votation directe, donc uninominale à 2 tours. Donc, en somme, s'il y a une candidature qui n'obtient pas 50% plus 1 des voix exprimées lors du premier tour, ben, c'est les deux candidatures ayant le plus de voix qui s'en vont au deuxième tour. Et c'est la candidature après gagnante. Sur d'autres, celui qui a le plus de votes, tout simplement, en fait.
OK, mais mettons que quelqu'un au premier tour aurait 50% plus 1, il n'y aurait pas besoin de deuxième tour?
Non, c'est ça. Donc, il y a comme une majorité qui est reconnue comme étant, c'est la majorité des gens veulent cette personne-là, elle sera présidente de la République. Oui. Mais ça arrive très peu, bien entendu, parce qu'il y a plus d'une trentaine de partis officiellement.
Et ça, puis juste, là, je vais juste, pour que les gens comprennent à la maison, parce que ce podcast-là est surtout écouté au Québec, mais c'est au Québec, on a l'habitude de voter seulement une fois pour notre député, puis après, ça élue notre premier ou notre première ministre. Mais en fait, là, c'est vraiment un système où tu votes, puis dis-moi si je me trompe, mais tu votes pour ton président une fois, mais tu peux aussi voter pour ton député et aussi pour ton sénateur. C'est 3 votes différents, un peu comme on voit un peu pour les mairies, là.
Exactement ça. Il y a aussi des représentants régionaux, donc chaque région, il y en a plusieurs régions là, mais qui aussi ont leurs propres représentants. Donc ça ressemble un peu plus avec la France celle-là, donc comme les communes, les communales ou les régions. Ceux qui connaissent aussi le système français. Donc en fait cette année, en fait en 2019, c'était relativement une super élection. Donc la même année, il y avait les élections des mairies. Il y a l'élection régionale. Et dans cette élection-là, en fait, il y avait sénateur, député et la présidence.
OK. Fait que...
Une super élection, super année électorale.
OK. Donc, c'est ça, c'était quelque chose de gros. Puis là, justement, avant qu'on... lançons-nous là-dedans, qui se présentait à ces élections-là? Admettons pour le premier tour, là, c'était qui les... les principaux partis, là, que tu pourrais nous dire pour rapidement. Là.
Les principaux partis, en fait, les partis vus, comme je dis, il y en avait 32, après,
c'est énorme.
Officiellement enregistrés. Souvent, ils vont s'allier en fait en coalition, donc pour avoir une seule candidature à la présidence. Mais après, au niveau plus, que ce soit des députés ou régional, c'est un peu plus dispersé, en fait, diversifié. Donc, ça peut, là, on peut avoir des listes de 15 candidatures sur une liste régionale. Mais je vous dis ça tout de suite. En fait, il y avait déjà la UDI, Union Democrática Independiente, si je ne me trompe pas. En fait, c'est le parti classique de droite qu'on retrouve dans chaque pays, tout simplement. En fait, et avec une candidature en fait, relativement peu connue, donc je ne suis même pas obligé de le mentionner, parce que vous allez voir tantôt les résultats. Il y a aussi le Parti socialiste, bien entendu, le Parti démocrate chrétien, qui est un des... celui qui a eu le plus longtemps, en fait, le pouvoir après la dictature, le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical. Justement, en fait, on arrive directement au premier vote et c'est la dégringolade, en fait, des partis traditionnels. Tous les partis traditionnels, en fait, là, se font relativement ramasser au niveau de la présidence. Au niveau plus régional, c'est différent. Et au niveau des députés, différent, on pourra en reparler, mais... Il y a deux, en fait, candidatures qui vont ressortir et qui sont relativement quand même des surprises, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit par leur radicalité. Donc, le premier, en fait, c'est, je parlais de José Antonio Kast, avec son parti républicain. Donc, c'est d'extrême droite, conservateur dans ses valeurs, donc qui s'auto-identifie aussi. Oui, il s'identifie lui-même, en fait, comme un Trump, un pro-Trump.
As-tu le comparé un peu, est-ce que c'est grossier de le comparer un peu à Trump ou Bolsonaro au Brésil?
Non, je pense pas que c'est pas grossier. Au contraire, je pense que c'est même approprié, surtout dans la mesure où il s'approprie, en fait, cette identification, le fait ça passait des trackers aussi. Donc, en fait, il l'arborait, en fait, même.
En plus, je suis en train de regarder sa photo, puis il a la même coupe de cheveux que Trump. Mais bon, ça, c'est juste moi.
Ben, si je dois donner des éléments, en fait, sur Cast, c'est aussi ses parents, si on veut, ou sa famille est aussi issue d'immigration, en fait, allemande, mais pas n'importe quelle Allemagne, ou d'une Allemagne nazie aussi. C'est lui-même, en fait, aussi fait partie de la campagne du « oui ». La campagne du « oui », en fait, c'est lors du, je vous rappelle, le référendum du plébiscite sur est-ce que Augusto Pinochet continue pour un autre mandat de 8 ans comme président de la République. Lui, il a fait campagne pour le « oui », donc pour qu'Augusto Pinochet reste au pouvoir. Cast, ça fait quand même très longtemps qu'il est dans la sphère politique, mais il était relativement marginal jusqu'à récemment. Il faut le mettre en contexte. En 2019, il y avait les mouvements qui étaient étaient excessivement violents. Là, il y a eu plus de 36 morts et plus de 5 500 blessés. Il faut quand même le dénoter. Et près de 300 interpellations ou, en fait, reports policiers sur des agressions potentielles sexuelles. Ça, c'est les chiffres officiels, hein, tout simplement. Donc, ce n'est pas des manifestations là, qu'on voit tous les jours, là, mais d'une violence relativement inouïe qu'on n'avait pas vue depuis la dictature. Il faut le mettre ça en contexte. Donc, Cast, c'était vraiment le message de l'ordre, de l'autorité, de la matraque. Et d'un autre côté, en fait, on a le Frente Amplio, une coalition, en fait, qui... excusez-moi, non. Le Aprobación Dignidad, excusez-moi. Mais c'est par cette coalition-là, est aussi issue de deux coalitions, en fait, d'un parti qui s'appelle Chile Digno, qui est un parti gauche, donc je dirais socialiste, si on veut. C'est pas révolutionnaire, mais c'est relativement plus à gauche qu'un parti socialiste qu'on aurait comme en tête que celui de la France, par exemple. Et l'autre groupe, qui est le Frente Amplio, qui est lui-même une coalition, en fait, de petits partis, qui va réunir, en fait, beaucoup de gens, en fait, issus de la société civile, mais aussi des 10 nations, en fait, pré-européennes. Donc, il y a ça aussi. Donc, ce parti-là, ou cette coalition-là de coalition, va avoir sa propre candidature. Donc, c'est une coalition un peu de gauche, si on veut, relativement réformiste, quand même pro-écologie. Et en fait, c'est ces deux candidatures-là qui vont passer au deuxième tour. C'est Cast qui arrive avec 27,9% et le Aprobación Dignidad, donc dignité, approbation et dignité, c'est un peu spécial comme traduction, mais avec un 25,8% comme deuxième place. Mais les autres partis, là, on parle de 13-14%. Okay. Ouais. Le deuxième, c'est les démocrates chrétiens et l'UDI qui ont, c'est leur pire score à vie.
OK.
Donc c'est tous ça, les autres partis ont relativement disparu de la carte électorale, là, si on veut, à la présidence. Et finalement, il y a le deuxième tour et ça va être, en fait, Gabriel Boric qui va gagner avec 55, presque 56% justement des voix en faveur.
Si je peux. Oui.
Non, vas-y, Paul.
Si je peux, est-ce que c'était une surprise la victoire? Parce que, tu sais, là, admettons, là, si je ne me trompe pas, le Cast avait un léger avantage de 2 points après le premier tour, mais après, bon, c'est loin du 50%, ça n'a pas nécessairement d'importance. Mais est-ce que ça a été une surprise la victoire de Boric, justement? Comment s'est passée la campagne? Est-ce que ça, dès le départ, ça a été tranquillement, il a pris l'avantage, il a gagné, ou ça a été quand même serré comme campagne?
Ben, le premier tour a vraiment été excessivement cacophonique. On le voit à travers les résultats qui est relativement éclaté. Mais moi, là, je veux dire, à travers mon propre regard, j'ai été excessivement surpris, heureusement surpris que ce soit en fait Gabriel Boric qui gagne. Pour la simple et bonne raison que la plupart des partis, même qui sont centristes, normalement dans une tendance politique, quand ils voient un élément plus radical et de gauche, ils vont se retrancher vers un parti qui est plus sur le statu quo, à la limite vers l'ordre. Et l'ordre, hein, on aime bien normalement. Mais je pense que ce qui l'a mis le plus, en fait, justement, à Cast, c'est il y a deux choses, en fait. La chose qui n'a pas nécessairement un projet politique, en fait, pour le pays, dans la mesure où il y avait une manifestation populaire qui demandait simplement moi un changement de régime, ou des changements qui sont profonds. Donc le caste et son parti n'avaient pas nécessairement une vision de réforme ou de changement qui répondait aux attentes à la limite. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte qu'ils, lors des débats, en poussant un peu plus loin, ils voulaient renier tout simplement en fait, la convention constitutionnelle. Et ça, c'est, je pense que pour moi, c'est l'élément qui le nuit le plus dans sa campagne, surtout au deuxième tour. Donc, vous avez une approbation à 78% d'une réforme constitutionnelle. Vous avez des manifestations qui ont été violentes en 2019. Une insatisfaction, en fait, de la gestion de la pandémie 2020 et 2021. Renier, justement, le changement social qui était attendu à travers la Constitution, ça a été, en fait, la chose qui le nuit le plus, selon moi, et même si j'ai eu quelques entrevues ici aussi, c'est relativement aussi la même chose qui était soulevée. Et là, justement, les gens même qui étaient plus centristes ne voulaient pas, en fait, un retour aux manifestations relativement violentes ou même au statu quo, en fait, de la Constitution. Et ces gens-là qui étaient plus centristes, qui votaient normalement centre-droit, même droite des fois de temps en temps, ont voté, en fait, pour une première fois à gauche, vers la partie qui était plus ouvert à la négociation, à l'ouverture, mais qui était au moins en faveur au résultat de ce que peu importe ce qui allait sortir de la Convention constitutionnelle.
OK. Et bon, on le dit un peu, mais c'est pourquoi, c'est ça, on en parle depuis le début, mais selon toi, pourquoi ce résultat-là, en fait, est si important? Oui, il y a l'aspect de la surprise, mais est-ce que c'est le contexte? Est-ce que tu penses que ça a donné un réel espoir de grands changements? Je sais que bon, le discours de Boric, quand il a pris le pouvoir, était comme extrêmement médiatisé. Là. Je pense que si je reprends je ne veux pas nécessairement reprendre les mots parfaitement, mais il disait que c'est la fin du néolibéralisme, c'est le début de la fin du néolibéralisme au Chili. Donc, de grands espoirs. Mais pourquoi, selon toi, c'est si important comme résultat électoral? Pourquoi tu dirais ça?
Déjà, c'est le retour vraiment d'une gauche qui s'assume. Déjà, c'est assez nouveau. De deux, c'est une gauche à l'intérieur même d'une Amérique latine qui n'a pas vraiment vu dans un pays aussi important, parce qu'il y a aussi des pays qui étaient plus petits, mais qui avaient quand même des partis de gauche, dont on peut parler, penser à la Bolivie, même au Venezuela. Mais dans la scène américo-latine, le Chili est un poids relativement important par son économie et tout simplement par sa posture, si on veut, à travers l'international, et comme on le voyait souvent comme étant justement l'oasis de l'Amérique latine. C'était supposément un modèle économique à reproduire partout en Amérique latine. Donc, il y a cet aspect-là. Deux, je pense aussi que ça fait partie d'une vague qu'on voit, selon moi, d'un retour tranquille, en fait, du pendule de la gauche, au moins de centre-gauche, voire gauche, en Amérique latine. Je pense qu'il y a au moins cette tendance-là qui peut se reproduire, bien entendu, au Brésil, avec le parti de Lula, qui finalement a été acquitté complètement des charges de corruption et tout ça. Et son parti reste très, très fort au Brésil. Donc, watch out, Bolsonaro. En Bolivie, bien entendu, c'est aussi, malgré tous les soulèvements, c'est le parti de gauche qui reprend, bien entendu. Bon, Venezuela, c'est un cas particulier en travers l'Amérique latine en tant que telle, mais c'est aussi de gauche. Au Pérou, c'est centre-gauche quand même, avec certaines réformes plus spéciales, mais il y a une tendance relativement généralisée d'ouverture à la limite dans, je veux dire, l'Amérique latine et tout ce qui est l'Amérique qui parle l'espagnol, parce qu'il faut, je vais inclure aussi le Mexique là-dedans, dans une tendance d'ouverture, si on veut, soit des revendications écologistes ou des revendications d'écoféminisme aussi. Okay. Et d'une reconnaissance aussi des peuples pré-européens, il faut le dire. Dans la plupart de ces constitutions-là, de ces pays-là, soit ils ne sont pas reconnus, soit tout simplement ils sont réprimés. Et là, on commence justement à réouvrir et à reconnaître qu'en fait, qu'il y a d'autres cultures à l'intérieur même de notre pays. T'sais, il y a d'autres langues, puis il y a d'autres traditions.
Je te dirais que c'est un peu global, ça, même ici au Canada. Là, c'est pas tant la joie pour une Première Nation, là. Mais bon.
Non, c'est ça. C'est pendant plusieurs pays, effectivement, qui ont réprimé fortement leur population autochtone, ou les Premières Nations, si vous me permettez. Là. Mais donc, je pense qu'il y a une tendance, mais c'est aussi le fait que, justement, c'est résolument un grand pays au grand pouvoir et au grand changement. Donc, c'est plusieurs éléments conséquents, un après l'autre, qui font en sorte que personne ne s'attendait, en fait, que le changement soit si profond. Ce qui fait en sorte, par exemple, qu'il y a beaucoup de poids sur le prochain gouvernement. Il y a beaucoup de poids, beaucoup d'espoir, sur la prochaine présidence et sur le gouvernement et sur la convention constitutionnelle. Bon, si vous me permettez mon opinion, je pense qu'il y aura plusieurs qui vont sortir déçus de cette de ces élections-là. Tout simplement par la composition du Parlement. Le Parlement en soi est un tiers de droite classique, avec un pourcentage relativement important, d'une dizaine de pourcents, si je ne me trompe pas, d'extrême droite, du parti caste ou pas trop loin de caste, d'une droite religieuse. Il y a un tiers à peu près qui est centriste, donc libéraux, centristes, indépendants, centre-gauche, si on veut, là, quelques réformes sociales. Et après, un autre tiers, si on veut, qui est plus de gauche. Donc, c'est très, très divisé comme Parlement. Le Sénat, c'est à peu près la même chose aussi. Okay. Donc, même si le gouvernement serait d'extrême gauche, même si ce n'est pas le cas, ça va être difficile, effectivement, d'avoir des réformes aussi profondes qu'on pense. Ceci dit, entre le moment où on s'est parlé, Gaël et Paul, et aujourd'hui, lors d'enregistrement, il y a eu, en fait, la composition du cabinet.
Ah.
Donc, du prochain président. Et c'est 14 femmes et 10 hommes qui vont composer, en fait, le gouvernement. Oui, c'est quelque chose, c'est un message. C'est l'image, c'est un message assez fort. Et c'est pas non plus des femmes à certains postes qu'on considérait moins importants. On parle à la Défense, c'est le ministère aussi de l'Intérieur. Donc, des postes clés, quand même, qui sont donnés aussi à des femmes. Et c'est aussi des postes qui ont été donnés à plusieurs partis. Donc, c'est pas juste au Frente Amplio, mais c'est des gens soit de la société civile, donc des gens qui étaient déjà médecins, travailleurs, mais aussi de d'autres partis, donc de Parti socialiste, Parti radical, le Parti libéral, le Parti communiste, et certains, justement, gens autochtones aussi. Donc, c'est vraiment un gouvernement, en tout cas, au moins dans sa vision, qui se veut inclusif. De négociation et inclusif et ouvert à au moins à pourparler. Donc, c'est déjà un bon signe quand même, mais on verra bien entendu la suite des choses.
Mais ça, mais c'est quand même... ça, mais là, tu l'as bien dit, par exemple, c'est oui, un nouveau gouvernement et tout, mais il faut dire que c'est pas comme si la droite avait disparu du pays, tu l'as bien dit, ils sont encore bien présents, par exemple, au Parlement. Mais ça, tu l'as dit, c'est un nouveau cabinet. Ben déjà, ça, moi, tu me disais, c'était 14 femmes sur et 10 hommes qui composaient le cabinet. C'est quand même... c'est fou, là. Moi, je trouve ça vraiment... quand tu compares à d'autres, ou quand tu retournes 10 ans en arrière, ce serait pas ça. Donc, je trouve que c'est quand même... ça donne de l'espoir, puis je trouve ça beau, tu sais. Mais justement, on terminerait tranquillement un peu là-dessus, mais selon toi, ça va être quoi les grands défis du gouvernement, parce que tu l'as un peu dit aussi, c'est il y a énormément d'espoir, mais bon, ça sera pas facile. Puis bon, peut-être les gens vont être déçus, mais ce serait quoi pour toi les grands défis du gouvernement, surtout pour est-ce qu'il y a des problématiques, par exemple au Chili? Bon, là on a parlé plein de choses, mais selon toi, ça va être quoi les grands sujets là?
C'est une très bonne question. Je pense que déjà c'est un appui en fait un peu plus soutenu à la au travail de la Convention constitutionnelle, déjà ça. Ce serait fortement important parce que c'est d'ici un an, ils vont terminer leurs travaux et il va y avoir un nouveau référendum sur la Constitution. Donc, déjà ça. Donc, donner de l'appui, donner du financement et les moyens techniques pour arriver à ce travail-là. Donc, déjà ça. De deux, il y a aussi la gestion de la pandémie. Il ne faut pas l'oublier. Il y a Omicron qui rentre tranquillement pas vite au Chili. Il y a quand même un élément en fait en faveur au moins du pays, c'est près de 90% du pays est doublement vacciné, voire triple. Donc il n'y a pas ce fléau-là en fait du doute aussi large en fait du vaccin ou même de la présence même du virus là. Ça n'existe pas nécessairement aussi largement qu'en Europe, aux États-Unis ou même au Canada, au Québec. Cette sphère-là. Négationniste, le complotiste sur le virus n'est pas trop présente. On dit juste ça. Je pense que les prochains mois vont être surtout sur comment en fait faire en sorte que les gens puissent vivre au jour le jour. Donc, ce sera probablement une augmentation du salaire minimum et une augmentation tranquille en fait des services sociaux. D'ici la fin du mandat, je pense qu'il y a aussi un élément très important à en parler, c'est les retraites.
Okay.
Au Chili, les retraites, c'est un peu ce que veut faire Macron, là, mais c'est une capitalisation individuellement. Chacun cotise de façon individuelle à une caisse de retraite. Il n'y a pas de régime commun là, comme au Québec. En fait, si tu as de l'argent, tu peux mettre de l'argent pour la retraite. C'est pas si pire. Mais si vous êtes pauvre, ben vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Vous pouvez vous payer un service de retraite. Donc, comme un Liberté 55 là, ou ces programmes-là. Mais c'est un exemple. Je vais faire des parallèles avec le Québec, mais il n'y en a pas. Comme je vous l'ai dit, là, si 30% de votre salaire s'en va au transport, si un autre 30% c'est le loyer, il vous reste 30% près de votre salaire qui est pour vivre au jour le jour. On ne parle même pas en fait de l'eau qu'il faut payer, l'électricité qu'il faut payer. Tout se paye au Chili. Et le service public est relativement, comme je l'ai dit, à travers la Constitution de 1980, est très limité. Donc, les services sociaux sont... Il y a un... Le public est là, mais c'est déficitaire. Donc, en fait, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'assurance, vous ne pouvez pas vous payer le transport, vous ne pouvez pas vous payer l'école, vous ne pouvez pas vous payer... Donc, monter les échelles sociales sont impossibles ou très, très difficiles.
OK. So,
même au-delà de juste monter les échelles sociales, c'est juste la vie de tous les jours, ça semble être assez... un peu en mode survie de comme c'est au jour le jour, la semaine, puis c'est difficile parce que tout a un prix. Là. C'est comme tu dis, par exemple, juste l'eau a un prix. C'est, pour nous, c'est tellement. C'est pas ça. Là.
Nous, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas, en fait. On a. Faut le mettre en perspective. On a cette chance-là d'avoir des ressources d'eau, d'eau douce aussi, en fait, accessible et, et potable et facilement potable. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le pays fait aussi. Des milliers de kilomètres en longueur. Donc, il y a aussi l'accès, tout simplement, même à l'eau qui est difficile, donc, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Les télécommunications aussi, Internet. Je parle des routes. Les routes sont privatisées aussi, donc avec péage.
Mon Dieu,
comme... ce sont des concessions. Mais ça, c'est la concession en tant que telle. Donc, c'est tous des éléments que la concession, en fait, bloque pour des réformes, pour dire, ben, est-ce que l'État doit intervenir ou non, ou au moins sécuriser certains secteurs qui sont considérés comme essentiels. Mm-hmm. Donc, si vous avez de l'argent, c'est pas si pire.
Oui.
Si vous n'avez pas d'argent, c'est bonne chance.
Ben, c'est ça. Puis là, en plus, c'est ça que tu dis un peu. Ben, si tu n'as pas d'argent, ben, déjà, c'est dur chaque semaine. Ben, c'est que si, en plus, tu n'as pas de régime de retraite, ben, je vois pas où tu peux trouver même de l'argent pour la mettre dans ta retraite. Donc...
Ben, on s'en va chez les petits-enfants qui vont nous ouvrir une petite porte dans leur petite maison. Puis voilà.
Ouais, c'est un autre univers, mais c'est ça. Donc, ça va être les réformes, la réforme de retraite, le plan de réforme de retraite, la lutte au changement climatique, surtout pour les jeunes, qui fait partie d'une grande portion de la démographie, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation.
Okay.
S'il arrive à répondre à 2/5 de ces éléments-là, je pense que ce ne sera pas trop pire pour les prochaines élections.
Oui, parce que...
Mais ça va dépendre, bien entendu, du bon vouloir, en fait, du Parlement, en fait, de vouloir négocier ou non.
Ça, puis il ne faut pas oublier qu'il y a un trou entre cette présidentielle-là qu'il y a eu, puis la prochaine, parce qu'il ne peut pas être deux mandats de suite.
Oui, effectivement, on a... Bah, en fait, si la Convention constitutionnelle n'arrive pas à effectivement finir tous ses travaux à temps et à adopter la réforme constitutionnelle, effectivement, il ne pourrait pas techniquement se présenter. Il faut le dire, si on regarde juste tout simplement le premier tour, c'est juste 25% des gens qui ont officiellement appuyé Boric. C'est au deuxième tour qu'il y a un élément beaucoup plus fort, mais ça veut dire que 75% en vrai, des gens ne sont pas nécessairement en faveur. Ouais, ils peuvent avoir des sympathies pareilles, mais ils n'ont pas nécessairement voté pour lui de façon directe. Donc, il y a ça aussi, cet élément-là à tenir en compte, c'est que même s'il est président, même s'il a un cabinet qui est relativement en faveur avec lui, la plupart du pays, en fait, il devra être ouvert au moins à la négociation. Mais j'ai espoir. Je suis relativement très fier aussi de ce résultat-là. Parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais moi, je suis moi-même, en fait, d'origine chilienne. Et j'ai des grands-parents qui ont milité aussi dans le parti, dans les partis au Chili. En fait, une des raisons pourquoi je me retrouve au Canada même, c'est parce que c'est la résultante des événements bouleversants des années 70. Donc, j'ai grand espoir pour cette nouvelle constitution, j'ai grand espoir quand même pour cette nouvelle présidence-là, et j'espère que ça va ouvrir une nouvelle vague, en fait de progressisme, au moins d'éléments réformateurs et innovateurs pour le Chili et pour le reste des pays de l'Amérique latine.
Oui, eh ben, je finirai sur ces mots-là parce que tu l'as bien dit. Écoute, c'est une élection qui donne beaucoup d'espoir à ce peuple-là, mais bon, comme tu l'as aussi bien dit, mais il y a beaucoup de pain sur la planche et beaucoup d'attentes et beaucoup de travail. Donc, ça va être intéressant à suivre et mon Dieu, je te remercie, Guérou, d'être venu nous expliquer ça aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup à vous deux, en fait, à vous trois, pour cette belle invitation-là, deuxième invitation. J'ai hâte de revenir pour d'autres sujets.
Ouais, puis on va te sortir une carte chouchou, là tout le monde en parle.
Exactement.
Merci.
Et merci beaucoup, Guérou, et merci à tout le monde de nous avoir écouté.